Bonjour, c'est Camille Magnard. Nous sommes le 18 avril 2024. Cela fait 785 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
Une fois n'est pas coutume, ces sirènes, ces alertes aériennes que vous entendez, elles n'ont pas été enregistrées en Ukraine, mais en Israël. C'était samedi dernier, dans la nuit israélienne, le ciel s'est illuminé de dizaines de missiles de drones lancés par l'Iran et détruits à 99% grâce au dôme de fer israélien et à l'intervention aussi de pays alliés de l'État hébreu. La France notamment, on va y revenir. Cet événement, il a beaucoup fait réagir en Ukraine, vous allez l'entendre. Mais avant tout, une fois n'est pas coutume, là encore, c'est Isabelle Labéry qui m'a envoyé cette note vocale depuis Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, où elle se trouve cette semaine.
Salut Camille, c'est Isabelle. On est au nord de Kiev, à peu près à 60 km de la frontière avec la Biélorussie. C'était prévu que je sois là aujourd'hui, avec un cercle de réflexion qui s'appelle Eastern Circles, un think tank. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que quelques heures avant notre arrivée, des missiles russes frappent le centre-ville. Il y en a eu 3, a priori. Des Iskander, qui sont assez réputés pour leur précision, ils ont endommagé un hôpital, une université, et surtout, ils ont complètement détruit un hôtel. Là, je l'ai en face de moi. Il y avait à l'origine 8 étages. Il en reste un et demi, à peine. Tout le reste, c'est juste une structure complètement désarticulée, de plaques de béton à moitié effondrées sur elles-mêmes. Ce qui m'a marqué aussi tout à l'heure, c'est l'organisation des Ukrainiens. Parce qu'en fait, en 45 minutes, nous disait quelqu'un d'une ONG, on est capable de déployer une petite tente, d'arriver avec des stocks de nourriture pour distribuer au moins des sandwichs et puis après des soupes aux personnes qui n'ont plus de logement, qui ne savent plus où aller pour qu'elles... Elles se sentent un peu réconfortées. Il y a aussi des petits stands qui se sont montés pour remplir des papiers administratifs. Ceci dit, il y a toujours de la colère. On parlait avec un secouriste de Tchernihiv qui nous disait qu'en 27 ans de carrière, il n'avait pas vu beaucoup de frappes aussi violentes, aussi meurtrières. Et puis ce secouriste nous disait « on va continuer à se battre jusqu'à ce que le dernier Russe présent sur notre terre soit mort ». Il y avait une violence terrible et en même temps une volonté admirable de la part de cet homme qui était parmi l'un des premiers à arriver sur place. Bon, je vais te laisser Camille parce que la nuit est en train de tomber là, je vois la lune qui s'accroche dans le ciel. On est quand même à 2 heures de route à peu près de Kiev, accréditation de journaliste ou pas. Il n'est pas question de rentrer après l'heure du couvre-feu. Je te dis à bientôt.
Parmi les premières réactions à ces frappes de Tchernihiv qui ont fait au moins 18 morts, il y a eu celle bien sûr du président ukrainien, selon qui, je cite Volodymyr Zelensky, cela ne se serait pas produit si l'Ukraine avait reçu suffisamment d'équipements de défense aérienne et si la détermination de la communauté internationale à contrer la terreur russe avait été suffisante. Alors vous allez me dire, ce genre de déclaration est quasi quotidien ces dernières semaines venant de la présidence ukrainienne. Mais cette fois, ça fait écho à un contexte bien particulier et à ces autres propos de Volodymyr Zelensky prononcés, eux, dimanche, au lendemain de ces frappes iraniennes, donc contre l'État d'Israël. Plus de 300 missiles et drones interceptés à 99% avec l'intervention des batteries anti-aériennes Patriot, mais aussi de bateaux destroyers américains basés dans la région et d'avions de chasse français qui ont décollé de la Jordanie voisine.
Le monde entier a pu constater dans le ciel d'Israël à quel point l'unité des alliés contre la terreur peut être efficace lorsqu'il y a une vraie volonté politique. Israël n'est pas membre de l'OTAN, alors il n'y a pas eu besoin de déclencher l'article 5 ou toute autre démarche compliquée et personne n'a été entraîné dans la guerre. Ils ont simplement contribué à protéger des vies humaines. Les drones Shahed dans le ciel de l'Ukraine sont les mêmes que ceux qui ont survolé le Moyen-Orient. L'impact des missiles balistiques est le même partout quand ils ne sont pas interceptés en vol. Le ciel européen aurait pu bénéficier du même niveau de protection depuis longtemps si l'Ukraine avait reçu le même soutien total de la part de ses partenaires pour intercepter tous les drones et tous les missiles.
Depuis samedi soir, les Ukrainiens ont le sentiment d'être des alliés de deuxième zone pour les Occidentaux. Une amertume détaillé par Pierre Aski dans sa chronique géopolitique. C'était sur France Inter, mercredi matin, avec Nicolas Demorand.
Il y a de quoi être amer. Depuis des mois, les villes ukrainiennes sont la cible des missiles et drones russes. En fait, pour beaucoup, les mêmes drones iraniens qui visaient samedi soir Israël et que Téhéran livre à la Russie. Malgré les progrès de la défense aérienne ukrainienne, elle ne peut empêcher que des immeubles d'habitation soient touchés ou des infrastructures critiques comme la principale centrale électrique de Kiev. L'exemple israélien montre qu'il est possible de frôler les 100% de réussite.
Mais les deux situations, Pierre, ne sont pas totalement comparables.
En effet, Nicolas, c'est ce que répondent les Occidentaux. D'abord parce que l'Iran est à près de 2000 km d'Israël. Ses missiles et drones survolent d'autres pays pendant des heures. C'est dans le ciel de la Jordanie que beaucoup ont été abattus. La Russie et l'Ukraine sont voisines et les engins russes mettent beaucoup moins de temps à atteindre Kharkiv et même Kiev. Mais l'obstacle est d'abord politique, on le sait bien. Les Américains et leurs alliés ne veulent pas prendre le risque d'entrer en confrontation frontale avec la Russie, là où ils ne craignent pas grand-chose avec l'Iran. Dès l'invasion russe il y a 26 mois, Volodymyr Zelensky réclamait une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine qui aurait protégé les grandes villes. Refus catégorique, on ne prend pas le risque de la confrontation avec une puissance nucléaire. Depuis, à chaque étape de l'aide militaire, la même logique a prévalu, l'hésitation avant de sauter le pas.
D'où la comparaison avec Israël.
Les Ukrainiens l'ont mauvaise lorsqu'ils constatent que, même lorsqu'ils sont en désaccord avec les méthodes israéliennes à Gaza, les Américains livrent les armes et munitions dont Israël a besoin et volent à son secours quand les drones iraniens arrivent. Dans le même temps, l'armée ukrainienne souffre de pénurie de munitions, manque de batteries de défense aérienne et n'aura que dans quelques semaines les premiers avions F-16 promis, à un moment où l'Ukraine recule dans l'Est. Amertume enfin lorsqu'ils suivent le jeu politique à Washington, où l'aide à leur pays, pourtant promis à une adhésion à l'OTAN, est bloquée au Congrès. Une ultime manœuvre est en cours pour la débloquer. Mais le but est d'abord d'assurer l'aide d'urgence à Israël, qui fait plus consensus dans la classe politique américaine. Malgré les différences, la comparaison des deux situations est cruelle. Après s'être cru en première ligne dans le combat pour la liberté, les Ukrainiens constatent qu'ils passent au second plan quand le Moyen-Orient s'embrase.
Pierre Aski l'évoquait à l'instant, les destins ukrainiens et israéliens sont aussi mêlés au Congrès américain où une tranche de 60 milliards de dollars d'aide militaire américaine est bloquée depuis le mois de février. Elle est pourtant cruciale pour l'Ukraine. On en voit les effets chaque jour avec les munitions qui manquent, en particulier pour la défense anti-aérienne. Et ça bouge justement ces derniers jours sur le sujet à Washington. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Sébastien, tu es le correspondant de Radio France aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que l'aide américaine la plus importante pour l'Ukraine en guerre n'arrive plus depuis des mois ?
Alors en fait, c'est à la Chambre des représentants que c'est bloqué depuis le mois de décembre. Parce que la frange la plus extrême des élus républicains refuse de voter un paquet d'aide. Jusqu'ici, c'était pour l'Ukraine, mais aussi pour Israël notamment. Ils refusent de voter une enveloppe s'il n'y a pas un montant destiné aussi dans ce paquet à la question de l'immigration, qui est l'un de leurs sujets de campagne favoris. En fait, ils font de la politique intérieure un moyen de chantage. Ils veulent empêcher Biden, tout simplement, qui est aussi le candidat démocrate pour la présidentielle de novembre, de mener à bien sa politique étrangère. Et donc, ils refusent de voter ces aides s'il n'y a pas aussi dans l'enveloppe un montant pour envoyer des moyens à la frontière mexicaine et juguler les arrivées de migrants ici aux États-Unis. Les Républicains sont majoritaires à la Chambre et donc ils font de l'obstruction, quitte à faire sauter le Speaker, le président de la Chambre, qui est issu de leur rang, comme ils l'ont fait l'an dernier avec Kevin McCarthy, qu'ils jugeaient trop conciliant avec le camp démocrate.
Tout ça, Sébastien, ça préfigure plutôt bien ce à quoi pourrait ressembler la politique américaine sur l'Ukraine si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche en novembre.
Alors, Trump, il attise ça en sous-main, surtout maintenant qu'il a pris le contrôle largement du Parti républicain, dont il est certain d'avoir l'investiture officielle cet été. Il incite ses partisans les plus radicaux, comme l'élu de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a torpillé tout ce qui pourrait permettre à Biden d'engranger un succès. Et le vote de nouvelles aides en fait partie. Et comme le speaker Mike Johnson, qui est pourtant proche lui aussi de Trump, il était encore chez lui à Mar-a-Lago en Floride il y a quelques jours, comme Johnson a dit aux démocrates « Ok, on sépare les textes pour qu'au moins on puisse voter une aide pour Israël, qui est désormais menacé depuis quelques jours par l'Iran », eh bien ses collègues du Freedom Caucus, emmenés par cette Marjorie Taylor Greene, sont prêts à le destituer, lui, tout simplement, pour éviter à tout prix qu'une aide soit votée, malgré l'urgence pour Israël et donc pour l'Ukraine.
Merci à toi, Sébastien Paour, à Washington, où le vote de la Chambre des représentants est prévu pour ce samedi, avec, on l'a compris, un enjeu énorme pour la résistance ukrainienne. Un dernier écho, enfin, de ces frappes iraniennes sur Israël, vues du côté ukrainien. Un écho plus intime cette fois. C'est ce message que m'a envoyé dès dimanche matin Katerina Rogova, une fidèle de ce podcast, artiste, compositrice ukrainienne. Elle m'apprend au passage que sa mère, sa sœur vivent en Israël, où son neveu est mort au mois de janvier alors qu'il combattait dans l'armée israélienne à Gaza.
Bonjour Camille, que puis-je dire ? Qu'est-ce que je peux penser ? Moi, je ne pouvais pas dormir jusqu'à 3 heures du matin et c'est tellement... c'est incroyable parce que soit tu ne dors pas à cause des shahed qui arrivent vers ta maison en Ukraine, soit tu vois des nouvelles, des infos qui concernent Israël. Sauf que, bien sûr que l'Amérique... montre un bon support militaire. Et c'est impressionnant comment Israël réussit à protéger son peuple des attaques qui viennent de l'air. J'aimerais bien que l'Ukraine puisse avoir un tel potentiel. Mais on est toujours un petit peu comme des mendiants, mais en fait, c'est injuste parce que selon le mémorandum de Budapest, les pays occidentaux devraient nous soutenir et de nous donner tout le soutien qu'ils ont pu donner parce qu'on n'a plus d'armes nucléaires, on n'avait que des garanties et maintenant on demande avec une main est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'armes parce que c'était un accord quand même que voilà, on a tout donné, on a... Enfin bref, tu sais un petit peu l'histoire. C'est ça ce que je veux dire.
L'histoire qu'évoque Ekaterina dans ce message, c'est celle de 1994, juste après la chute de l'URSS, quand la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient convaincu l'Ukraine de renoncer à l'arme nucléaire soviétique dont elle disposait sur son territoire. 4000 ogives tout de même, qui en faisaient à l'époque la troisième puissance nucléaire au monde. En échange, c'est le fameux mémorandum de Budapest. Moscou, Londres et Washington offraient des garanties de sécurité au nouvel État ukrainien, s'engageant à respecter son indépendance, sa souveraineté et ses frontières existantes. On voit bien 30 ans plus tard ce que ça a donné. Et ce que ça continue à donner. Ce samedi, le chef d'état-major ukrainien en personne, Oleksandr Syrsky, le reconnaissait lui-même, la situation militaire s'est considérablement détériorée pour son armée sur le front Est. Les forces ukrainiennes peinent clairement à contenir l'intensification de l'offensive russe. C'est rare que les Ukrainiens évoquent de manière si claire dans cette guerre leurs difficultés, leurs faiblesses expliquées pour nous sur France Info. Par le général et analyste militaire Dominique Trinquant. C'était au micro de Thomas Séchier.
Il est probable que l'armée russe profite à la fois du temps très clément qui permet aux blindés de se déployer sur un terrain sec. Oui. Du fait que l'Ukraine a besoin d'hommes, vient de voter une loi, mais naturellement le personnel n'est pas encore arrivé sur le terrain, alors que les Russes avaient mobilisé plus de forces avant. Et dernier point, actuellement, avec les hésitations américaines pour livrer du matériel et le fait que les Européens n'ont pas assez de matériel à livrer, eh bien, l'Ukraine est bien sûr dans une situation très difficile. Mmh. Je crois que pour l'instant, ce sont des victoires tactiques Les Russes, évidemment, arrivent à progresser, mais à progresser, tactiquement, et avec beaucoup de pertes. Hein. Donc, ça n'est pas encore la catastrophe. Il faut voir un petit peu comment ça progresse dans les jours qui viennent.
Le temps presse, côté ukrainien, il y a cette crainte d'une grande offensive russe fin mai ou début juin, c'est ça ?
Oui, la Russie doit compter sur ce créneau. À cause de la météorologie, bien sûr, à cause du fait qu'elle a suffisamment de personnel et que l'Ukraine n'aura pas encore formé les nouveaux soldats qui ont été enrôlés et que les Américains n'auront toujours pas livré de matériel et les Européens sont dans une grande difficulté pour livrer le matériel, l'économie de guerre n'ayant pas encore produit ses effets.
Donc là, le mois qui vient, il va vraiment être capital pour les Ukrainiens.
Oui, je dirais les 3 mois qui viennent seront essentiels pour l'Ukraine, oui.
À Kiev, on tente de se rassurer avec cette bonne nouvelle arrivée mardi de Prague. La République tchèque, qui coordonne une initiative internationale pour trouver rapidement des munitions à envoyer en Ukraine, annonce que les premiers 500 000 obus dont elle a fait l'acquisition, avec l'argent des participants, seront livrables dès le mois de juin. Jusque-là, il va falloir tenir face à des soldats russes qui peuvent lancer 7 obus d'artillerie quand les Ukrainiens en tirent un seul. On va terminer cet épisode justement auprès des soldats ukrainiens. Reportage ramené de l'Est, tout près du front, par notre équipe de reporters. Agathe Mahuet, Jérémy Tuil, Yachar Fazilov, près du front donc, mais aussi près de la frontière avec la Russie, dans cette immense zone grise où Ukrainiens et Russes s'affrontent à distance et où les esprits peuvent s'échauffer très vite.
Ils sont un petit groupe de soldats dissimulés dans un bosquet en train de préparer leurs armes. C'est un canon anti-char, un SPG-9, qui tire des obus contre les blindés et contre les soldats russes qui passeraient la frontière. Des incursions, il y en a en permanence. Et le canon a tué pas plus tard qu'hier.
Un groupe d'hommes a passé la frontière et est entré sur notre territoire. On a eu des infos sur leur localisation, donc on a réagi et on a réussi.
L'arme soviétique a le même âge que 55 ans. Mais elle reste efficace si elle est entre de bonnes mains, assure Volodymyr. Soudain, le chef sergent nous montre un point mouvant sur son écran. Un drone ennemi vole au-dessus de nous, en silence, bien sûr.
Tu ne peux pas le repérer, ni visuellement, ni à l'oreille. Dans le ciel, malheureusement, ce sont les Russes qui ont l'avantage.
L'Ukraine a besoin de drones, rappelle-t-il. La frontière est à quelques kilomètres, et dans cette zone grise, le calme est trompeur.
À tout moment, ça peut chauffer ici.
Son camarade dit que c'est encore plus stressant que la ligne de front, car la frontière est immense. Et l'on ne sait pas d'où l'ennemi peut surgir.
Gloire aux forces armées ukrainiennes face à la mort qui aiguise encore et toujours sa faux. On se quitte avec ce tango de la mort enregistré à l'été 2022 par le groupe ukrainien Pirir i Batir. On pourrait traduire ça par la tarte et le fouet.
То така цапчик погибає, смерть заострила косу, не встига за ЗСУ, смерть заострила косу, не встига за ЗСУ.
Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Isabelle Labéry, à Pierre Aski, Sébastien Paour, Katerina Rogova, Dominique Trinquant, Agathe Mahuet, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov, bien sûr. Mise en onde, Lucas Finet, production Camille Magnard. La semaine prochaine, Isabelle sera rentrée d'Ukraine. C'est donc elle que vous retrouverez aux commandes de ce podcast.
C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.